BFM Business, midi, l'heure H.
Présenté par Edwige Chevrillon.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure H. Il fait partie de ce fameux Next 40 pour clore toute cette séquence de la French Tech. Pascal Gauthier est avec nous, le patron de Ledger. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes avec votre super petit coq rouge cette fois-ci, en l'occurrence. Donc les futurs CAC 40, peut-être vous nous raconterez ce que vous faites dans un instant. Mais pour l'instant, ça va être Thomas Asportas qui va nous apporter toutes les nouvelles. Et j'en profite pour vous dire aussi que je recevrai l'économiste Daniel Cohen pour son livre sur les origines du populisme. C'est Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes. Donc voilà, et pour l'instant, c'est Thomas qui nous dit qu'est-ce qui se passe dans le monde.
Bonjour Edwige, bonjour à tous. Et c'est l'OCDE qui prévoit pour cette année la plus faible croissance mondiale depuis 10 ans et la crise financière de 2008. En cause, nous dit l'OCDE, les tensions commerciales persistantes entre la Chine et les États-Unis. Les prévisions de croissance de l'organisme passent de 3,2 à 2,9% pour cette année et de 3,4 à 3 pour l'année prochaine. La croissance mondiale s'élevait pourtant encore de 3,6% l'année dernière, mais pour l'OCDE, l'ordre mondial qui régulait le commerce n'est plus là et nous sommes dans une nouvelle ère de relations moins sûres et parfois musclées. Il y a les tensions commerciales et puis il y a aussi bien sûr les tensions géopolitiques. Et après les attaques contre l'Arabie Saoudite, Bruno Le Maire affirme qu'il sera vigilant sur les prix à la pompe et qu'il veillera à ce qu'il n'y ait pas d'augmentation injustifiée. Le ministre de l'économie a également écarté le retour d'une taxe flottante. Air France jette l'éponge dans le dossier Aigle Azur. La compagnie n'a pas déposé de nouvelle offre alors que le tribunal de commerce d'Evry avait fixé jusqu'à hier soir minuit pour étudier de nouveaux dossiers de reprise. Il ne reste maintenant plus qu'une seule offre de reprise pour Aigle Azur, c'est celle de deux anciens dirigeants d'Air France, Lionel Guérin et Philippe Micoulot. Et puis on l'a appris dans la soirée, c'est Jean-Pierre Farandou qui va succéder à Guillaume Pépi à la tête de la SNCF. Jean-Pierre Farandou est depuis 2012 le patron de Keolis, la filiale de transport en commun de la SNCF, et c'est surtout quelqu'un qui connaît le groupe par cœur, puisqu'il y a effectué toute sa carrière, 37 ans, à gravir les échelons au sein de la SNCF. Jour de grève chez EDF, tous les syndicats s'opposent à la réorganisation du groupe qui prévoit de scinder EDF en deux et qu'ils considèrent, je cite, comme une menace au service public de l'électricité. Et d'après les chiffres d'EDF et de RTE, la grève entraîne une réduction de 9% de la production d'électricité. Cela étant dit, et toujours d'après EDF, cette baisse de la production n'entraîne pas à ce stade de perturbation du réseau ni de la consommation des ménages. Et puis d'après nos informations, une lourde réorganisation se prépare aussi chez Suez. Bertrand Camus, le nouveau patron de Suez, présentera en octobre son nouveau plan stratégique et il compte désormais privilégier les clients industriels et l'international aux collectivités locales. Suez veut aussi alléger sa dette et va engager pour 2 à 3 milliards de cessions d'actifs. Trois filiales du groupe pourraient être cédées. Du côté du Brexit, c'est le dernier jour de débat à la Cour suprême britannique pour savoir si oui ou non Boris Johnson avait le droit de suspendre le Parlement britannique jusqu'à la mi-octobre. La justice écossaise avait déclaré la manœuvre illégale la semaine dernière. Le verdict de la Cour suprême britannique sera rendu ce soir au plus tôt. Et puis à maintenant pile 6 semaines de la nouvelle date théorique du 31 octobre pour le Brexit, la France rappelle ce matin que le temps presse et qu'il sera trop tard pour négocier au prochain Conseil européen à la mi-octobre. On ne négociera pas directement au Conseil, disent ses sources diplomatiques qui rappellent que l'Élysée veut trouver une solution avant la fin du mois de septembre. Et puis dans l'actualité des entreprises, Boursorama publie ce matin de bons chiffres. La banque en ligne de Société Générale annonce avoir atteint la barre des 2 millions de clients avec un an d'avance. Elle vise maintenant 3 millions de clients d'ici à 2021. La banque dit avoir doublé la taille de sa clientèle depuis 2017. VP, le nouveau nom de PAN privé, eh bien annonce lui aussi aujourd'hui une bonne nouvelle puisque le site d'e-commerce va réaliser pour la première fois cette année la moitié de son chiffre d'affaires à l'international. VP est présent dans 14 pays et devrait réaliser cette année 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et puis Carmat, le fabricant français de cœurs artificiels, annonce avoir levé 60 millions d'euros, une somme qui va financer les opérations de l'entreprise jusqu'à mi-2021 et notamment la fin de son étude pivot. Carmat a aggravé ses pertes au premier semestre à 24 millions contre 19 un an plus tôt. Et puis un dernier mot de média pour finir puisque ça vient de tomber. Mathieu Pigas a signé le droit d'agrément demandé par le pôle d'indépendance du Monde en cas de changement d'actionnaire. Les deux parties se sont mises d'accord sur les conditions financières d'exercice de ce droit d'agrément. BFM Business, il est midi 5. On file sur les marchés à la mi-journée. Le CAC 40 est dans le vert. On gagne 0,47% à 5647 points. L'euro dollar, quant à lui, est aussi dans le vert. On progresse de 0,35% à un euro s'échange pour 1,1067.
Merci Thomas. Évidemment, on vous retrouve à 12h30 dans un instant. Est-ce que les annonces d'Emmanuel Macron vont doper ou pas la French Tech? On en parle avec Pascal Gauthier. C'est l'un des, peut-être, des serial killers, entre guillemets, de la tech française. À tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Pascal Boutier, merci d'être avec nous. Donc, le patron de Ledger, je disais serial killer de la French Tech, parce que c'est vrai que vous avez fait de nombreux succès, en l'occurrence. Ledger, juste qu'on soit clair, vous avez même apporté ce que vous faites, des petits coffres-forts. En fait, vous sécurisez tout ce qui est blockchain, cybermonnaie, et plus largement toutes les données critiques, très importantes.
Oui, voilà, c'est ça. En fait, on a été connu pour ce petit produit qui s'appelle le Nano X. Ça, c'est notre nouveau produit qui vient de sortir. Ce sont des petits coffres-forts numériques qui, effectivement, protègent vos crypto-monnaies. Mais le sens plus large, en fait, il y a une nouvelle classe d'actifs qui sont des actifs digitaux critiques, des actifs digitaux qu'on ne peut pas perdre, mm-hmm. qui sont protégés par nos technologies.
Ouais. Alors, Ledger, en 2-3 chiffres, donc, vous avez intégré, vous avez été choisi pour faire partie du Next 40. Est-ce que c'est une reconnaissance? Et en plus, vous avez reçu un prix à l'Elysée parce que vous êtes une entreprise globale, vous avez l'essentiel de votre chiffre d'affaires à l'étranger.
Exactement. Alors, c'était un prix à France Digital qui nous a été remis parce qu'on fait 98% de notre chiffre d'affaires à l'étranger. La crypto-monnaie, c'est un phénomène mondial et en fait, tout de suite, on a envoyé nos produits. On a envoyé 1,5 million de clés dans plus de 165 pays dans le monde. Donc c'est ça qui a été salué par le prix qu'on a reçu. Et de la même manière pour le Next 40, là c'est un classement qui a été fait par un jury. Je pense que ce qui nous a distingué, c'était une levée de fonds qu'on a fait en début 2018 de 61 millions d'euros et le succès international de Ledger, et surtout qu'on soit leader dans notre domaine, qui est un domaine novateur, et dans le domaine de la blockchain qui tient particulièrement à cœur au gouvernement.
Particulièrement à cœur au gouvernement, la blockchain, oui, mais en même temps les crypto-monnaies, ils ne sont pas tellement favorables. Lorsqu'on voit les déclarations du ministre de l'économie qui dit « Ah, il n'y aura pas de Libra chez nous, en tous les cas, pas sur le sol français, voire européen. » On va revenir là-dessus, juste. Vous avez participé au lancement de Criteo, qu'on connaît bien ici sur BFM Business, aussi une autre start-up qui est devenue une scale-up. Vous êtes un petit peu le spécialiste de la scale-up, donc c'est une entreprise, petite entreprise, qui devient une grande entreprise. C'est quoi les recettes, en fait?
Ben, je pense que de toute façon, c'est une obligation de créer des géants français, des géants européens et de créer des sociétés qui sont compétitives mondialement. Et en ça, l'exécutif vient de s'aligner avec finalement les entrepreneurs. Et donc ça, il faut le noter parce que c'est plutôt très positif. Comment on fait ? Ça commence par de l'ambition. Il faut avoir tout de suite une ambition internationale quand on crée une entreprise. Un plan d'exécution qui est aligné avec votre ambition et beaucoup de résilience parce que monter des business comme ça, c'est très difficile. Il faut parfois prendre le temps et le temps. Par exemple, en crypto-monnaie, on ne sait pas ce qui se passe. Les marchés peuvent monter comme descendre et on subit les marchés. Et donc là, il faut montrer de la résilience. Mais les trois facteurs, c'est l'ambition, l'exécution et la résilience.
Vous êtes une entreprise qui est le chiffre d'affaires ?
Chiffre d'affaires qu'on avait annoncé en 2017 et 2018, on était à peu près à 50 millions d'euros. Et ensuite, les marchés varient et cette année, on n'a pas encore annoncé notre chiffre d'affaires.
Vous avez donc, mais qui sera une progression quoi, spectaculaire, une progression
les marchés,
forte,
vous savez qu'en 2017, les marchés étaient au plus haut.
Ça,
donc
oui.
Voilà. Et nous, notre chiffre d'affaires, il est quand même indexé sur la croissance du marché. Donc, comme le marché a dévissé de 80%, je ne vais pas vous annoncer qu'on a fait une croissance de chiffre d'affaires, mais on a beaucoup de bonnes choses à annoncer, alors on les annoncera en temps voulu.
Lorsque vous avez levé à peu près 60 millions de dollars ou d'euros du reste ?
61 millions d'euros, 75 millions de dollars.
Voilà, exactement. Donc 75 millions de dollars sur, pour la première levée de fonds. On parle beaucoup qu'il y en a une deuxième en perspective. Est-ce que ce qui a été annoncé par Emmanuel Macron, les institutionnels, la Caisse des dépôts, est-ce que ça va vous permettre, à votre avis, de lever des fonds plus facilement en France, des fonds français ?
Il faut l'espérer, parce que je pense que c'est le sens des annonces. Des sociétés comme Ledger, on est dans une concurrence mondiale. On a des concurrents aux États-Unis, en Asie. On est dans des marchés qui bougent quand même très vite. Donc, surfinancer les sociétés au départ, ça nous aide à avoir du succès. Parce que si on devait tout faire sur nos fonds propres et ou une certaine rentabilité, on n'irait pas aussi vite. Mm-hmm. Donc, le financement des entreprises, c'est à mettre au premier plan, surtout si on veut construire des géants mondiaux. Parce que en Chine et aux États-Unis, par exemple, les sociétés concurrentes sont elles très bien financées.
Oui. Est-ce que vous sentez que c'est un handicap d'être français pour vous ?
Non.
Dans la création de votre entreprise, ensuite dans le développement de votre entreprise.
Non, jamais. Ça n'a jamais été un handicap pour Criteo. Et puis même au contraire, parfois il y a des bonnes choses. Nous chez Criteo, on avait déployé quand même dans presque tous les pays du monde. On avait des bureaux aux États-Unis, au Japon, etc., etc. Pour Ledger, on fait la même chose. On a des bureaux à Hong Kong, à New York, à San Francisco. Bon, il n'y a pas de problème d'être français aujourd'hui pour faire des grands business internationaux. Et puis, sur le métier de Ledger, par exemple, on a une spécialité de carte à puce en France. Dans ce produit, en fait, ce que vous avez, c'est une carte à puce qui a été inventée en France. Et donc, en fait, la France a plein d'avantages. Il faut simplement les trouver et ensuite les développer. Voilà, donc on le fait.
Et je suis un peu comme la chanson de Jacques Brel, pourquoi Vierzon ?
Pourquoi Vierzon ? C'est une longue histoire, mais parce que en fait, les équipes fondatrices...
Parce que Ledger, le siège de Ledger est donc à Vierzon.
Notre usine qu'on vient de construire et qu'on va ouvrir en grande pompe le 26 septembre, c'est le Ledgerplex, est à Vierzon. Ledger, c'est la combinaison de trois équipes qui se sont rencontrées au départ. Une des équipes était à Vierzon et donc on a mis notre unité de production et d'envoi de colis à Vierzon.
Et là, en l'occurrence, donc, on peut faire en fait un des leaders de la French Tech française et ouvrir une usine au centre de la France sans problème.
Ouais, on peut tout faire en fait. Il suffit juste d'avoir l'ambition, de le vouloir et ensuite d'avoir une exécution parfaite.
Ouais. Criteo, là, donc c'était votre première entreprise. En l'occurrence, d'abord, pourquoi est-ce que vous l'avez quittée ? Et est-ce que c'est une entreprise un jour qu'on pourrait voir au CAC 40 ? Malgré les difficultés un peu...
Criteo, pourquoi j'ai quitté ? J'avais eu une aventure de 6 ans avec Criteo, j'avais envie de voir autre chose. Et d'ailleurs, j'ai fait ma transition vers les crypto-monnaies, parce que moi, j'aime bien bâtir. Et donc, arrivé à un certain stade, je pense que c'est plus pour moi. Moi, j'aime bien repartir de zéro et réécrire une histoire. Donc, c'est pour ça. Et Criteo, malheureusement, on ne les verra jamais au CAC 40, puisque nous, on s'est introduit en bourse au Nasdaq. En 2013.
On peut pas switcher.
C'est compliqué, mais bon, ensuite, je pense que Criteo au Nasdaq, c'est très bien. Il faut voir que dans les annonces qui ont été faites par le gouvernement, d'ailleurs, il y a une annonce qui est assez intéressante, c'est qu'ils veulent que Paris devienne une des premières places financières et créer les conditions pour que des sociétés comme Ledger, par exemple, dans le futur, puissent venir se lister en France ou en Europe, typiquement à l'Euronext. Aujourd'hui, c'est des conditions qui sont pas encore complètement remplies.
En quoi ?
Il n'y a pas les analystes, pas les fonds, il n'y a pas ce qu'il faut en fait pour accueillir des sociétés de technologie de pointe. Les sociétés vont plutôt soit au Nasdaq ou NYC à New York, c'était pour ça qu'on avait choisi ça avec Criteo, ou soit même maintenant peuvent aller en Asie, par exemple au Stock Exchange de Hong Kong. Et donc effectivement, ça c'est quelque chose que le gouvernement a annoncé qu'il faut faire, c'est rendre possible l'introduction en bourse pour des sociétés comme Ledger dans le futur par exemple.
Oui, mais c'est pas un futur proche en tous les cas, ça se crée pas comme ça. Pour des sociétés comme vous.
Pas comme ça. Non. Mais d'un autre côté, la technologie en Europe avait du retard. Elle est en train de rattraper son retard. Donc voilà, il faut se donner quelques années, 5 ans, 10 ans. Il faut garder une grande ambition. Et surtout, créer des géants ici, parce que c'est la garantie de nos emplois et c'est la garantie de notre souveraineté numérique. Je reprends un peu les terminologies du gouvernement. Moi, je suis entrepreneur, mais c'est vrai que quand on fait de la concurrence à des grandes sociétés américaines et chinoises partout dans le monde, ce qui était le cas pour nous avec Criteo et ce qui est le cas pour nous avec Ledger, on sait que c'est quand même bien d'être bien chez soi et d'avoir les outils qu'il faut pour être à égalité, je veux dire, dans la concurrence et être dans la même ligue de business.
Oui, Pascal Gauthier, est-ce que la Libra pour vous est d'abord, est-ce que c'est une crypto-monnaie, la future monnaie de Facebook ? Est-ce que du coup ça va être un axe de développement pour votre coffre-fort ou pas ? Est-ce que vous comprenez un peu les réticences, notamment des autorités françaises ?
Est-ce que c'est une crypto-monnaie ? Oui.
Certains disent que non, c'est pour ça que je... Bon, vous dites que oui, d'accord.
Globalement, oui. Est-ce qu'elle sera intégrée dans les services Ledger ? Oui. Donc, on pourra avoir son Libra sur son Nano X, par exemple. Est-ce que je comprends les réticences du gouvernement ? Oui, parce que je pense que Bruno Le Maire est dans son rôle quand il rappelle la souveraineté de l'État sur le fait de battre la monnaie. Mm-hmm. Par contre, est-ce que ça changera quelque chose au fait que les crypto-monnaies se déploient et que Libra prenne sa place ? Probablement pas, parce que de toute façon, la régulation, elle est mondiale. Et à la fin, je pense que Libra arrivera quand même à exister, malgré tout.
Qu'est-ce que vous souhaitez en conclusion pour Ledger, pour vous ?
Je souhaite plein de bonnes choses pour Ledger, pour nous. Nous, notre ambition, c'est de devenir la plus grande boîte de technologie qui ait jamais été créée en Europe. Donc, c'est ça que je nous souhaite.
Oui, d'accord. Donc, mais ça, c'est un objectif à quoi ? Pas à court terme, moyen terme, long terme ?
Non, mais ça peut aller vite, disons 5-10 ans.
Bon, et bien voilà, il faut de l'ambition en tous les cas. Merci beaucoup, Pascal Gauthier, d'avoir été avec nous, le patron de Ledger. Dans un instant, alors peut-être un peu moins gai et un peu moins de croissance. Jean-Hervé Lorenzi, le président du Cercle des économistes, sera notre invité. On va revenir sur les révisions à la baisse de l'OCDE, fortement sur la croissance. Et puis, on parlera peut-être du retour de la taxe carbone. À tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Pascal Boutier, merci d'être avec nous. Donc, le patron de Ledger, je disais serial killer de la French Tech, parce que c'est vrai que vous avez fait de nombreux succès en l'occurrence. Ledger, juste qu'on soit clair, vous avez même apporté ce que vous faites, des petits coffres-forts. En fait, vous sécurisez tout ce qui est blockchain, cybermonnaie et plus largement toutes les données critiques, très importantes.
Oui, voilà, c'est ça. En fait, on a été connu pour ce petit produit qui s'appelle le Nano X. Ça, c'est notre nouveau produit qui vient de sortir. Ce sont des petits coffres-forts numériques qui, effectivement, protègent vos crypto-monnaies. Mais le sens plus large, en fait, il y a une nouvelle classe d'actifs qui sont des actifs digitaux critiques, des actifs digitaux qu'on ne peut pas perdre, qui sont protégés par nos technologies.
Ouais. Alors, Ledger, en deux, trois chiffres, donc vous avez intégré, vous avez été choisi pour faire partie du Next 40. Est-ce que c'est une reconnaissance? Et en plus, vous avez reçu un prix à l'Elysée parce que vous êtes une entreprise globale, vous avez l'essentiel de votre chiffre d'affaires à l'étranger.
Exactement. Alors, c'était un prix à France Digital qui nous a été remis parce qu'on fait 98% de notre chiffre d'affaires à l'étranger. La crypto-monnaie, c'est un phénomène mondial et en fait, tout de suite, on a envoyé nos produits. On a envoyé 1,5 million de clés dans plus de 165 pays dans le monde. Donc, c'est ça qui a été salué par le prix qu'on a reçu. Et de la même manière, pour le Next 40, là, c'est un classement qui a été fait par un jury. Je pense que ce qui nous a distingué, c'était une levée de fonds qu'on a fait en début 2018 de 61 millions d'euros et le succès international de Ledger. Et surtout, qu'on soit leader dans notre domaine, qui est un domaine novateur, et dans le domaine de la blockchain qui tient particulièrement à cœur au gouvernement.
Oh, ouais, enfin, particulièrement à cœur au gouvernement. La blockchain, oui, mais en même temps, les crypto-monnaies, ils ne sont pas tellement favorables. Lorsqu'on voit les déclarations du ministre de l'économie qui dit « Ah, il y a pas de Libra chez nous, en tous les cas, pas sur le sol français, voire européen. On va revenir là-dessus. Merci. Juste. Vous avez participé au lancement de Criteo, qu'on connaît bien ici sur BFM Business, aussi une autre start-up qui est devenue une scale-up. Vous êtes un petit peu le spécialiste de la scale-up, donc c'est une entreprise, petite entreprise qui devient une grande entreprise. C'est quoi les recettes, en fait?
Ben, je pense que de toute façon, c'est une obligation de créer des géants français, des géants européens et de créer des sociétés qui sont compétitives mondialement. Et en ça, l'exécutif vient de s'aligner avec finalement les entrepreneurs. Et donc ça, il faut le noter parce que c'est plutôt très positif. Comment on fait ? Ça commence par de l'ambition. Il faut avoir tout de suite une ambition internationale quand on crée une entreprise. Un plan d'exécution qui est aligné avec votre ambition et beaucoup de résilience parce que monter des business comme ça, c'est très difficile. Il faut parfois prendre le temps et le temps. Par exemple en crypto-monnaie, voilà, on ne sait pas ce qui se passe, les marchés peuvent monter comme descendre et on subit les marchés. Et donc là, il faut montrer de la résilience. Mais les trois facteurs, c'est l'ambition, l'exécution et la résilience.
Vous êtes une entreprise qui est le chiffre d'affaires ?
Chiffre d'affaires qu'on avait annoncé en 2017 et 2018, on était à peu près à 50 millions d'euros. Et ensuite, les marchés varient et cette année, on n'a pas encore annoncé notre chiffre d'affaires.
Vous avez donc, mais qui sera une progression quoi, spectaculaire, une progression
forte. Les marchés, forte, vous savez qu'en 2017, les marchés étaient au plus haut.
Ça,
donc
oui.
Voilà. Et nous, notre chiffre d'affaires, il est quand même indexé sur la croissance du marché. Donc, comme le marché a dévissé de 80%, je ne vais pas vous annoncer qu'on a fait une croissance de chiffre d'affaires, mais on a beaucoup de bonnes choses à annoncer. Alors, on les annoncera en temps voulu.
Lorsque vous avez levé à peu près 60 millions de dollars ou d'euros du reste ?
61 millions d'euros, 75 millions de dollars.
Voilà, exactement. Donc 75 millions de dollars sur, pour la première levée de fonds. On parle beaucoup qu'il y en a une deuxième en perspective. Est-ce que ce qui a été annoncé par Emmanuel Macron, les institutionnels, la Caisse des dépôts, est-ce que ça va vous permettre, à votre avis, de lever des fonds plus facilement en France, des fonds français ?
Bah, faut l'espérer parce que je pense que c'est le sens des annonces. Des sociétés comme Ledger, on est dans une concurrence mondiale. On a des concurrents aux États-Unis, en Asie. On est dans des marchés qui bougent quand même très vite. Donc surfinancer les sociétés au départ, ça nous aide à avoir du succès. Parce que si on devait tout faire sur nos fonds propres et ou une certaine rentabilité, on n'irait pas aussi vite. Donc le financement des entreprises, c'est à mettre au premier plan, surtout si on veut construire des géants mondiaux. Parce que en Chine et aux États-Unis, par exemple, les sociétés concurrentes sont elles très bien financées.
Oui. Est-ce que vous sentez que c'est un handicap d'être français pour vous ?
Non.
Dans la création de votre entreprise, dans le développement de votre entreprise.
Non, jamais. Ça n'a jamais été un handicap pour Criteo. Et puis même au contraire, parfois il y a des bonnes choses. Nous, chez Criteo, on avait déployé quand même dans presque tous les pays du monde. On avait des bureaux aux États-Unis, au Japon, etc., etc. Pour Ledger, on fait la même chose. On a des bureaux à Hong Kong, à New York, à San Francisco. Bon, il n'y a pas de problème d'être français aujourd'hui pour faire des grands business internationaux. Et puis, sur le métier de Ledger, par exemple, on a une spécialité de carte à puce en France. Dans ce produit, en fait, ce que vous avez, c'est une carte à puce qui a été inventée en France. Et donc, en fait, la France a plein d'avantages. Il faut simplement les trouver et ensuite les développer. Voilà, donc on le fait.
Et je suis un peu comme la chanson de Jacques Brel, Pourquoi Vierzon ?
Pourquoi Vierzon ? C'est une longue histoire, mais parce que en fait, les équipes fondatrices...
Parce que Ledger, c'est le siège de Ledger, est donc à Vierzon.
Notre usine qu'on vient de construire et qu'on va ouvrir en grande pompe le 26 septembre, c'est le Ledgerplex, est à Vierzon. Ledger, c'est la combinaison de trois équipes qui se sont rencontrées au départ. Une des équipes était à Vierzon, et donc on a mis notre unité de production et d'envoi de colis à Vierzon.
Et là, en l'occurrence, donc, on peut faire en fait un des leaders de la French Tech française et ouvrir une usine au centre de la France sans problème.
Ouais, on peut tout faire en fait. Il suffit juste d'avoir l'ambition, de le vouloir et ensuite d'avoir une exécution parfaite.
Ouais. Criteo, là, donc c'était votre première entreprise. En l'occurrence, d'abord, pourquoi est-ce que vous l'avez quittée ? Et est-ce que c'est une entreprise un jour qu'on pourrait voir au CAC 40 ? Malgré les difficultés un peu...
Criteo, pourquoi j'ai quitté ? J'avais une aventure de 6 ans avec Criteo, j'avais envie de voir autre chose. Et d'ailleurs, j'ai fait ma transition vers les crypto-monnaies, parce que moi, j'aime bien bâtir. Et donc, arrivé à un certain stade, je pense que c'est plus pour moi. Moi, j'aime bien repartir de zéro et réécrire une histoire. Donc, c'est pour ça. Et Criteo, malheureusement, on ne les verra jamais au CAC 40, puisque nous, on s'est introduit en bourse au Nasdaq. En 2013.
On peut pas switcher.
Je pense que Criteo Nasdaq, c'est très bien. Il faut voir que dans les annonces qui ont été faites par le gouvernement, d'ailleurs, il y a une annonce qui est assez intéressante, c'est qu'ils veulent que Paris devienne une des premières places financières et créer les conditions pour que des sociétés comme Ledger, par exemple, dans le futur, puissent venir se lister en France ou en Europe, typiquement à l'Euronext. Aujourd'hui, c'est des conditions qui ne sont pas encore complètement remplies.
En quoi ?
Il n'y a pas les analystes, pas les fonds, il n'y a pas ce qu'il faut en fait pour accueillir des sociétés de technologie de pointe. Les sociétés vont plutôt soit au Nasdaq ou NYC à New York, c'était pour ça qu'on avait choisi ça avec Criteo, ou soit même maintenant peuvent aller en Asie, par exemple au Stock Exchange de Hong Kong. Et donc effectivement, ça c'est quelque chose que le gouvernement a annoncé qu'il faut faire, c'est rendre possible l'introduction en bourse pour des sociétés comme Ledger dans le futur par exemple.
Oui, mais c'est pas un futur proche hein, en tous les cas, ça ne se crée pas comme ça. Pour des sociétés
non,
comme vous.
Pas comme ça. Non. Mais d'un autre côté, la technologie en Europe avait du retard. Elle est en train de rattraper son retard. Donc voilà, il faut se donner quelques années, 5 ans, 10 ans. Il faut garder une grande ambition. Et surtout, créer des géants ici, parce que c'est la garantie de nos emplois et c'est la garantie de notre souveraineté numérique. Je reprends un peu les terminologies du gouvernement. Moi, je suis entrepreneur, mais c'est vrai que quand on fait de la concurrence à des grandes sociétés américaines et chinoises partout dans le monde, ce qui était le cas pour nous avec Criteo et ce qui est le cas pour nous avec Ledger, on sait que c'est quand même bien d'être bien chez soi et d'avoir les outils qu'il faut pour être à égalité, je veux dire, dans la concurrence et être dans la même ligue de business.
Oui, Pascal Gauthier, est-ce que la Libra pour vous est d'abord, est-ce que c'est une crypto-monnaie, la future monnaie de Facebook ? Est-ce que du coup ça va être un axe de développement pour votre coffre-fort ou pas ? Est-ce que vous comprenez un peu les réticences, notamment des autorités françaises ?
Est-ce que c'est une crypto-monnaie ? Oui.
Certains disent que non, c'est pour ça que je... Bon, vous dites que oui, d'accord. Bon,
globalement, oui. Est-ce qu'elle sera intégrée dans les services Ledger ? Oui. Donc, on pourra avoir son Libra sur son Nano X, par exemple. Est-ce que je comprends les réticences du gouvernement ? Oui, parce que je pense que Bruno Le Maire est dans son rôle quand il rappelle la souveraineté de l'État sur le fait de battre la monnaie. Mm-hmm. Par contre, est-ce que ça changera quelque chose au fait que les crypto-monnaies se déploient et que Libra prenne sa place ? Probablement pas, parce que de toute façon, la régulation, elle est mondiale. Et à la fin, je pense que Libra arrivera quand même à exister, malgré tout.
Qu'est-ce que vous souhaitez en conclusion pour Ledger, pour vous ?
Je souhaite plein de bonnes choses pour Ledger, pour nous. Nous, notre ambition, c'est de devenir la plus grande boîte de technologie qui ait jamais été créée en Europe. Donc, c'est ça que je nous souhaite.
Oui, d'accord. Donc, mais ça, c'est un objectif à quoi ? Pas à court terme, moyen terme, long terme ?
Non, ça peut aller vite. Disons 5-10 ans.
Bon, et bien voilà, il faut de l'ambition en tous les cas. Merci beaucoup, Pascal Gauthier, d'avoir été avec nous, le patron de Ledger. Dans un instant, elle a peut-être un peu moins gai et un peu moins de croissance. Jean-Hervé Lorenzi, le président du Cercle des économistes, sera notre invité. On va revenir sur les prévisions à la baisse, révisions à la baisse de l'OCDE, fortement sur la croissance. Et puis, on parlera peut-être du retour de la taxe carbone. À tout de suite.
BFM Business, le club de l'heure H.
Notre invité dans le club de l'orage, bien sûr, c'est un député, Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes. Merci d'être avec nous, Jean-Hervé. Beaucoup de questions à voir avec vous. Peut-être commencer par ces révisions à la baisse de l'OCDE. Angel Gouria, qui était mon invité il y a quelques jours, qui l'avait anticipé, en l'occurrence. Est-ce que ça veut dire qu'on est vraiment en queue de comète, en fin de cycle, en l'occurrence? Donc on passe de 3,2 à 2,9 pour cette année. L'année prochaine, de 3,4 à 3%. On est loin des 3,6 il y a encore quelques mois.
Juste peut-être une parenthèse sur la prévision de l'année prochaine. Vous verrez qu'elle sera révisée. Évidemment, on ne fera pas 3% l'année prochaine. On est dans une phase qui n'est pas d'ailleurs une fin de cycle, qui est une phase de rupture par rapport à l'économie mondiale, telle que la trajectoire qu'on a connue, parce qu'on ne sait pas régler les problèmes de technologie, que ça crée, comme vous le savez, une sorte de segmentation très brutale du marché du travail qui n'est pas très facile à résoudre. Beaucoup d'emplois qui sont créés sont des emplois qui sont des emplois peu qualifiés. Le vieillissement est un problème majeur et les inégalités sont de plus en plus mal supportées. Donc tout ça fait une évolution du monde qui n'est pas une récession. On a toujours l'impression que c'est soit blanc ou noir, mais c'est un ralentissement marqué. Et vous verrez que nos amis du FMI, qui ne sont pas à une modification près, ils le font tous les 3 mois, toujours à la baisse, on arrivera à une croissance qui sera vraisemblablement fondée sur des vrais chiffres chinois, donc plutôt proche de 2, 6, de 7 que de 2,9.
Oui, donc une correction quand même assez sévère, hein, en l'occurrence. Alors, d'où ça vient? Est-ce que c'est, comme vous venez de le souligner, est-ce que c'est vraiment quelque chose de structurel? Est-ce que c'est lié, je veux dire, à l'attitude de Donald Trump avec ce qu'il a provoqué avec ses tensions commerciales? On commence à en voir l'impact, c'est clair. Ou alors, est-ce que c'est vraiment parce qu'on rentre dans un autre, j'ose pas dire le mot cycle, parce que je suis même pas sûr que c'est dans une autre transition.
Une autre trajectoire. Exactement. Moi, c'est ma conviction, c'est qu'on est dans une autre trajectoire qui est très difficile d'ailleurs à décerner. Il ne faut jamais oublier que pendant 3 siècles, le monde a eu une croissance, ce qu'on a appelé la deuxième partie Moyen-Âge, croissance qui était égale à zéro. Je veux dire, le débat qui avait été lancé par de très bons économistes américains sur la grande stagnation était un débat tout à fait légitime. Il est possible que le monde connaisse un ralentissement de la croissance significative, même si ça ne fait pas partie de notre environnement mental. On est là en train de dire, nous, les pays vieux, on ralentit, mais ailleurs, ça, on verra bien. J'espère que me tromper, je ne crois pas du tout à une reprise d'activité mondiale très, très forte, je n'y crois pas. Alors maintenant, le rôle de Trump, il est en réalité l'expression tout simplement du fait que le multilatéralisme qu'on avait pensé comme étant en réalité le leadership d'un pays qui...
Oui, la globalisation, quoi.
Tout ça, la coordination, mais une coordination gérée par un pays, ça ne marche pas avec deux pays qui s'affrontent. Est-ce que l'impact est très important aujourd'hui de ce qu'on... au fond de son discours et de
celui de Xi Jinping. Oui, mais est-ce que c'est l'écume des choses, vous voyez, c'est l'écume des choses. Qu'en fait, il y a une vraie transformation du monde.
Dont il faut bien penser que cette première phase, de conflit essentiellement euro entre la Chine et les États-Unis prendra une véritable signification si Donald Trump est réélu et si à ce moment-là il déclenche une vraie guerre commerciale. Et là, ça, les choses risquent d'avoir un impact beaucoup plus fort, ce qui veut dire que si on devait avoir à un moment une crise majeure de l'économie mondiale, une crise financière, ce serait, disons, au cours du premier semestre 2021 s'il est réélu.
Est-ce que ça veut dire, puisque si jamais on veut relancer l'économie mondiale, l'économie européenne, voire l'économie française, en fait, les outils, et vous voyez où est-ce que je veux en venir, les outils notamment monétaires, tels qu'ils sont utilisés aujourd'hui, ben, in fine, vont devenir ou sont déjà inefficaces parce qu'on n'est plus dans la même logique économique?
Alors, ils sont efficaces sur un point, inefficaces sur un autre. Inefficace sur la croissance réelle, même si, une fois de plus, on n'est pas en récession, si c'est une croissance affaiblie, mais la France fera 1,3 cette année, elle fera peut-être un peu plus l'année prochaine, ça n'est pas une récession. Mais là où l'impact, pour le moment, est très positif, c'est que chaque décision, de non-augmentation des taux d'intérêt, et encore plus de décroissance, de baisse des taux d'intérêt, est très favorable pour les marchés financiers. Donc aujourd'hui, vous avez une séparation qui est très forte, en réalité contraire absolument à tout ce qu'on a appris en économie pendant des décennies. Il y a une croissance qui ralentit et des marchés financiers qui marchent très bien, avec des résultats. Alors, pendant très longtemps, on l'a dit, c'est les résultats des entreprises qui sont très bons, ils sont un peu moins bons. Les taux de croissance des résultats pour l'année prochaine, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, sont positifs, mais pas si favorables que ça. En réalité, c'est la politique monétaire qui, dans les faits, joue ce rôle bénéfique pour les marchés financiers.
Oui, la question, vous avez vu comme comment on en a aussi largement commenté ici sur BFM Business, bien sûr, mais on voit bien que ça suscite beaucoup d'interrogations au sein même du Conseil des gouverneurs, cette fois-ci de la Banque Centrale Européenne, mais aussi bien que la décision hier de la Fed. On a vu qu'il n'y avait aucune unanimité. Donc, c'est intéressant, on est vraiment on est en train de refaire l'économie, ou du moins l'économie est en train de se refaire sous nos yeux,
de se repenser. En réalité, aujourd'hui est privilégiée l'idée que c'est favorable à la croissance économique, donc que plus les taux d'intérêt faibles, ça joue en réalité assez peu. Et les marchés financiers, qui sont quand même très importants, notamment aux États-Unis, et notamment pour Trump, qui considère qu'il joue là une partie de sa réélection. Et là-dessus, l'impact de la baisse ou de la faiblesse des taux d'intérêt ou leur aspect négatif est un point très positif, c'est sans aucun doute. Ça signifie aussi qu'il y a énormément d'argent dans le monde, de liquidités, que ces liquidités vont vers les choses qui sont peu risquées, c'est-à-dire les obligations des pays qui sont jugés très solvables, c'est l'Allemagne, c'est les États-Unis, c'est la France, et donc avec des taux d'intérêt qui demeurent à terme très faibles. On a des taux d'intérêt à 30 ans qui sont quasiment nuls. On est quand même dans une situation qui est incompréhensible pour les gens qui ont fait la politique monétaire traditionnelle.
Oui, la question qu'on peut se poser, c'est sur cette politique de taux bas. On voit bien qu'il y a un aspect positif, en l'occurrence, puisque c'est fait pour booster l'économie, mais en même temps, on voit l'impact que ça a sur le secteur bancaire, sur la rémunération de l'épargne, et donc là, ça peut avoir un effet négatif, même créer une spirale négative pour l'épargnant, donc pour le consommateur, donc pour le français ou le citoyen. Donc là, est-ce que ça peut rester une spirale de création de richesse et de croissance ?
Il y a un demi-perdant.
Vous voyez,
le vrai perdant, c'est évidemment le système bancaire qui vit de la différence
mais donc,
d'intérêt.
À terme, c'est nous aussi.
Oui, mais pour le moment, dans les comptes, le système bancaire va en réalité souffrir parce que à partir du moment où il a plus de marge entre les taux d'intérêt à long terme et les taux d'intérêt à court terme, il a quand même un problème. Il répond aujourd'hui par des fermetures d'agences et par une politique d'emploi qui n'est pas favorable.
Oui,
ça, c'est un point qui est négatif.
Par une rémunération de l'épargne très basse, voire négative.
Voilà. Et pour nous, trois aspects. Un aspect sur l'emploi dans le système bancaire. Il y avait une formule, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a une dizaine d'années, de Mink, qui a toujours eu tort. Il s'était en tout cas trompé sur le temps, qui disait la banque sera la chirurgie de demain. Mmh. Alors, il se trouve que c'est exagéré, mais c'est clair que ça joue.
Aujourd'hui, on peut se poser
deuxième aspect, ça joue quand même de manière positive pour tous ceux qui investissent dans un logement ou dans une manière ou d'une autre, parce que les taux d'intérêt sont quand même très faibles, et c'est évidemment très négatif pour la rémunération de l'épargne, qui jusqu'à maintenant est en gros, j'allais dire, encore positive, mais c'est pas évident que dans les deux ans qui viennent, ça le demeure, donc ça posera un vrai problème.
Jean-Hervé Lorenzi, juste une question un peu large, mais j'aimerais juste le qualifier. Le budget 2020 pour vous, on va pas rentrer dans le détail, c'est un budget quoi ? C'est un budget laxiste ? C'est un budget de lendemain de gilets jaunes ? C'est un budget quoi ?
C'est un budget qui est bien.
Bien ?
Bien.
D'accord.
Bien
non, mais parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le trouvent bien, c'est pour ça que...
Tant pis pour eux.
Ouais.
Tant pis pour eux. Et puis, je préfère avoir raison seul que... C'est un budget qui est bien. Pourquoi ?
En quoi est-il bien ?
On voit bien, tout simplement, parce que le seul sujet qui compte dans nos pays, c'est d'arriver à maintenir un peu de croissance. Et de la croissance, imaginez que l'année prochaine, on soit comme en Allemagne, à 0,5 ou de croissance, soit à 0,3, vous verriez, c'est pas des gilets jaunes qui défileraient, c'est la France entière qui défileraient. Donc, très attention, le vrai sujet dans cette situation extraordinairement compliquée qu'on vient de décrire au niveau mondial, avec un ralentissement de l'économie mondiale, c'est de maintenir la croissance sans d'ailleurs de drame, car je rappelle que le déficit sera de d'après ce que j'ai vu, 2,2, 2,3, enfin, tout ça est quand même très raisonnable. Et il faut espérer que nos amis allemands comprennent que leur politique aujourd'hui doit être modifié, pas non plus de fond en comble, mais qu'il faut qu'ils dépensent un peu plus d'argent, simplement parce qu'il faut de la croissance, point. C'est ça le sujet. Et donc, ce budget, alors maintenant, point par point, il a des qualités, des défauts. Je trouve qu'il met bien l'accent sur l'enseignement, qui est quand même notre faiblesse majeure. Donc, l'un dans l'autre, c'est
plutôt
bon
positif.
Budget.
Toute dernière question sur, il n'y a pas d'augmentation injustifiée des prix du carburant. C'est ce que vient de déclarer Bruno Le Maire. Là aussi, c'est peut-être une petite épée de Damoclès sur la croissance.
Oui, enfin c'est une épée de Damoclès parce que c'est vécu comme par, on l'a bien vu, puisque c'est le démarrage de l'affaire des gilets jaunes, c'est vécu bien au-delà même de la part réelle dans la consommation des ménages, y compris fragiles, c'est vécu comme une agression directe, et je trouve que Bruno Le Maire a raison de dire ça.
Voilà, en tous les cas, très pro-gouvernement, Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes, et bien dans un instant on continuera à parler des gilets jaunes, des origines du populisme avec l'économie. Daniel Cohen, à tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est Eli Cohen, vous voyez, c'est la force d'en parler avec vous, Daniel Cohen. Bonjour, voilà ce que c'est que de parler d'autres sujets. Vous êtes directeur du département d'économie de l'École normale supérieure, vous êtes professeur évidemment aussi à l'École d'économie de Paris, et vous publiez avec Yann Algan, Elisabeth Besley, Daniel Martial Foucault et vous-même les origines du populisme, enquête sur un schisme politique et social, et c'est donc aux éditions du Seuil. Daniel Cohen, vous avez vu les images là de l'arrivée de Jean-Luc Mélenchon procès, en l'occurrence. C'est un procès politique ou pas? Il a raison?
Bon, écoutez, franchement, je n'en sais rien.
Est-ce que c'est du populisme? Ça rejoint votre livre, d'où ma question.
Voilà, on est bien là-dessus, non. Donc, effectivement, il y a une tentation qu'on écarte dans le livre de traiter de la même manière ce qu'on appellerait le populisme de gauche et le populisme de droite, parce que, en effet, ces deux radicalités se nourrissent d'une même détestation des élites, des corps constitués, des journalistes, des partis politiques traditionnels et parfois de la justice. Donc oui, il y a en effet, dans cette posture, seul contre l'establishment, quelque chose de commun qu'on retrouve dans la droite populiste, dans la gauche radicale de Mélenchon. Le problème qu'on essaye de décortiquer, enfin, je ne sais pas si c'est un problème, mais le point qu'on essaye de décortiquer dans le livre, c'est que ça s'arrête là, les analogies. C'est-à-dire qu'à partir de ça, tout sépare, en tout cas, les électorats. Dans le livre, on analyse les électorats, tout les sépare. Ouais. Et même, ce que j'ai envie de dire, ce qui est associé peut-être à l'image de Mélenchon, là, dans ces images, même l'idée qu'il y aurait un chef charismatique qui porterait sur lui la résolution des contradictions entre le peuple et, on va dire, et le système, les électeurs de gauche et de droite, de la gauche radicale et de la droite populiste, pensent vraiment des choses totalement opposées. La droite extrême de Marine Le Pen, elle a cette culture du chef. Elle se reconnaît dans le chef charismatique. Les électeurs de Mélenchon ne se reconnaissent pas du tout, en tout cas dans les enquêtes qu'on a, dans cette figure du chef, ce qui explique peut-être que ça marche beaucoup moins bien dans le cas de Mélenchon, et peut-être d'ailleurs ne le souhaite-t-il pas, j'en sais rien, mais en tout cas, ça n'est pas du tout de même nature, parce que la gauche qui vote pour Mélenchon, elle n'aime pas cette posture du chef.
Alors, c'est intéressant, parce qu'on peut se demander qu'est-ce que fait Daniel Cohen sur ces sujets, parce que c'est assez politique, hein, justement. Alors, vous expliquez bien, dans ce livre-là, il y a une crise politique, il y a une crise culturelle, et il y a une crise économique. Vous dites la montée des forces anti-système est intimement liée à la détérioration des conditions d'existence des classes moyennes et populaires frappées par l'insécurité économique et qui remonte notamment, enfin vous le faites remonter en tous les cas, à la crise économique de 2008. C'est vraiment cette insécurité. Donc à la limite, la montée du populisme, vous la faites remonter à la crise financière qu'on a connue en 2008.
Et même un peu avant, en fait, avec le délitement progressif de beaucoup de rapports sociaux qui pouvaient exister avant, l'ubérisation de la société, la fragilité croissante des destins économiques, indiscutablement, enfin en tout cas on essaie de le démontrer dans le livre, avec beaucoup de données, pas seulement sur la France, même dans le cas de la France, on a des données très très précises qui nous sont données par le CVPOF, avec lequel on a collaboré, avec Martial Foucault, pour faire cette étude, mais aussi dans des études internationales, on retrouve ça aux États-Unis.
Oui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs dimensions. voilà. justement. Voilà.
Et donc, il faut, exactement, il faut distinguer ce qui vient de l'économie et ce qui ne vient pas de l'économie. C'est ça qui nous intéressait avec des quatre auteurs. On est trois économistes et un politologue. Mais ce qui nous intéressait, c'était de voir jusqu'où l'économie peut aller et à partir de quoi il faut faire autre chose qu'une analyse économique de la situation. Pour comprendre le ressentiment d'un très grand nombre de lecteurs, aussi bien à gauche et à droite, c'est la discussion qu'on vient d'avoir, l'insécurité économique apparaît comme vraiment un des ferments impossible à ignorer de ce mécontentement par rapport, par exemple, aux partis politiques traditionnels. Mais dès qu'on essaie d'aller au-delà et de comprendre ce qui distingue, on va dire l'extrême gauche et l'extrême droite, pour le dire un peu bêtement comme ça, alors l'économie ne suffit plus. Elle est une cause
commune. Non, il y a des interactions.
Et là, il faut aller vers le culturel, presque aborder une dimension anthropologique du rapport des électeurs à la société pour comprendre qu'en effet, du côté de la gauche et du côté de la droite, c'est pas du tout le même ressentiment qui s'exprime.
Vous parlez de l'individualisation de la société, de la désociabilisation. On l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes. Je recevais le libéral Gaspard Koenig, je ne sais pas quelle relation vous avez, qui vraiment à l'opposé avec lui, mais qui disait que les plateformes, en fait, elles ont complètement déstructuré un peu notre société, en l'occurrence. Et donc, l'individu se met beaucoup en avant, mais du coup, avec les conséquences néfastes que ça peut entraîner.
Oui. Alors, moi, j'ai une formule simple qui résume ma propre pensée sur cette question de l'individu et de la société. Je pense que nous vivons dans une société d'individus qui veulent faire société. Nous ne sommes pas des individus qui nous satisfaisons de la simple contemplation narcissique de nous-mêmes. Nous sommes constamment et toujours à la recherche de personnes avec qui vivre notre vie. Alors, c'est beaucoup plus libre aujourd'hui les modalités d'association qu'elles ne pouvaient l'être dans les sociétés antiques, dans les sociétés médiévales où vous étiez astreint, au fond, à une socialité, celle de la famille, celle de votre environnement hiérarchique, etc. Donc, il y a plus de liberté, mais cette liberté, elle a un prix. C'est qu'il y a des perdants de cette société des individus. Et au fond, c'est le cœur de la démonstration de ce livre. Les perdants de cette société d'individus, ouais. C'est-à-dire ceux qui n'arrivent plus, ou mal, ou péniblement, à faire société avec le reste de la société, ce sont les électeurs du Front National. Voilà, dit vraiment simplement. On a des statistiques qui le démontrent de partout, je vous épargne la démonstration du chose, mais ça, c'est la grande différence avec la gauche radicale. La gauche radicale sont souvent issus du secteur public, ce sont un prolétariat urbain nouveau, mais qui vit en ville. Ceux qu'on a retrouvés, malheureusement, parmi les victimes du Bataclan, ils sont dans la précarité économique, mais qu'on retrouve dans des formes de socialité, les concerts, des associations, des ONG. Ils ne sont pas en manque de socialité. Les électeurs du Front National, ce sont bien souvent des personnes qui n'ont plus cette convivialité, cette communauté de destin que donnait, par exemple, à un ouvrier. La vie en usine, c'était dur, c'était pénible, c'était individualisé, le travail à la chaîne, mais il y avait une communauté. Il y avait des syndicats puissants, oui, c'est ça qui a été perdu.
Moi, ce que je trouve aussi intéressant, et ça me fait penser, alors, pour le coup, lorsqu'on parle de géopolitique, je ne sais pas si vous avez lu ce livre formidable de Dominique Moisy qui s'appelle La géopolitique de l'émotion. Vous, à la limite, c'est l'économie de l'émotion, parce que vous intégrez justement dans ces critères l'émotion. Vous parlez d'émotionnel en disant que le citoyen, il y a l'insécurité économique, mais dessus, il y a un côté très émotionnel.
Oui, parce que pour comprendre précisément la manière dont ce populisme, cette radicalité, on l'appelle ça anti-système, se développe, il y a l'insécurité économique, mais l'insécurité économique, pourquoi elle ne se traduit pas par une demande, on va dire, plus circonstanciée pour les partis de gauche et les partis de droite traditionnels? Au fond, pourquoi le Parti Socialiste, les Républicains n'ont pas pris
en charge... Oui, puis même les syndicats pourraient porter ça, en tout cas.
Pourquoi ça ne se fait pas? Parce que, en fait, les échecs répétés des politiques économiques depuis 10 ans, depuis la crise de 2008, mais même plus avant, à protéger les plus vulnérables, font qu'il y a un sentiment, la colère qui s'exprime, et cette colère, elle fait qu'on n'est plus dans le jeu politique rationnel, à supposer qu'il n'ait jamais été, qui a pu exister auparavant. Donc c'est cette combinaison d'insécurité économique, de ressentiment, de colère, et ce grand partage des eaux, j'insiste, parce que c'est très important pour comprendre ce qui se passe entre ceux qui, par ailleurs, perdent cette place dans la société et ceux qui arrivent à la maintenir, qui expliquent pourquoi les uns vont à droite et à gauche. Quand on regarde les électeurs du Front National, ce qui est vraiment très troublant, c'est le niveau de méfiance interpersonnelle qu'ils expriment à l'égard, non pas simplement des immigrés ou des gens d'une autre religion, qui est souvent la manière dont ils se présentent au monde. Ce sont des partis partout, Salvini, à l'occasion du Brexit ou Trump,
parce que
profondément anti-immigrés. Mais ça n'est que la partie visible de quelque chose de beaucoup plus profond.
Daniel Cohen, j'aurais presque pu commencer par là. Le populisme, en fait, c'est quoi? Est-ce que, par exemple, aux États-Unis, vous parlez de populisme aux États-Unis,
oui,
avec Donald
de,
Trump?
Dans le cas de Trump, tout
on
à
peut,
fait. Parce que c'est
s'interroger.
Même... Oui, enfin bon, de toute façon, c'est des définitions, donc ça mange pas de pain. Mais si on définit le populisme comme plusieurs cases à cocher, un ressentiment par rapport à l'institution, aux institutions traditionnelles. Trump le coche comme Mélenchon. Deuxièmement, un ressentiment à l'égard d'autrui, à l'égard des immigrés. Là, on voit qu'on bascule vers le populisme de droite. Une culture du chef, c'est-à-dire que l'idée que toutes ces contradictions, au fond, pourraient être résolues de manière illibérale. On parle de démocratie illibérale pour caractériser ce
bien
moment.
Sûr.
C'est-à-dire quelqu'un d'un peu autoritaire qui met un peu tout le monde au travail et à l'ordre. C'est quand même mieux que le jeu des partis politiques. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui nous donne à la verticale Salvini, Trump...
Oui, cela dit, Salvini, ça y est, il a dégagé. Pardonnez-moi cette expression.
Il a dégagé.
Il va peut-être revenir.
Les sondages ne l'ont pas fait dégager. Il a cru qu'il pouvait oublier les institutions. C'est ça le point.
Oui,
puisque tous ces
absolument.
Gens pensent qu'il y a un rapport direct avec le peuple qui rend inutiles les institutions, puisque lui, comme chef, il résout les
problèmes. C'est pour ça qu'il y a quand même toujours un bon sens. Je trouve,
non, non, parce que là, je, malheureusement, j'aimerais être optimiste comme vous, Edwige, mais là, ce que je vois, c'est que, aussi bien d'ailleurs en Angleterre avec Johnson qu'avec Salvini, les institutions ont tenu leur moment de revanche. Mais malgré tout, la situation très bizarre, c'est que le Parlement anglais ou le Parlement italien, au fond, ont coalisé des forces qui refusent d'aller devant les électeurs. Donc ça ne durera pas très longtemps. En fait, ça renforce d'une certaine manière la main de ceux qui en face vont dire, alors attendez, le peuple ne peut plus donner son mot. Oui, il peut le faire, mais il y a quand même une procédure. C'est ça qu'on lui répond. Mais c'est quand même une victoire de très très courte durée pour ces coalitions. Je ne sais pas si elles survivront aussi bien en Italie qu'en Angleterre à l'épreuve des urnes. Donc, les causes sont toujours là. Là, vous veniez d'annoncer les prédictions économiques de l'OCDE. On voit qu'on est en plus déjà dans un moment de creux. Hein, la reprise en France était 2017.
Transformation, justement, c'est ce que disait Jean-Hervé Lorenzi. On est à un moment de transformation. Je partage assez ce sentiment-là. Il faut presque, vous économiste, vous prof d'économie...
Ouais.
Devant des brillantes têtes, en l'occurrence, il faut peut-être réinventer justement un peu tout le modèle.
Peut-être, sûrement, mais en tout cas, on est dans ce moment de transformation, de transition, donc qui fait qu'on voit que c'est très fragile tout ça. On aurait pu penser que la crise de 2008, elle allait se terminer au bout de 5-6 ans. Bon, en fait, ça a repris vraiment à la fin de l'année 2016, au milieu de l'année 2016. On a vu une très bonne année 2017 en France, et déjà le soufflet retombe. Donc ça veut dire que nos économies aujourd'hui sont fragiles, elles génèrent de l'anxiété, de l'insécurité. Et ça, les hommes politiques, le personnel politique, on est obligé de le reconnaître, n'ont pas trouvé de remède à ça. Peut-être qu'il n'en a pas de solution simple.
Pas avec nos lunettes actuelles. Vous voyez, peut-être qu'il faut qu'on change de lunettes.
Oui, mais en tout cas, pour les gens, les électeurs, à la fin du compte, c'est est-ce que je suis vulnérable? Est-ce que je peux perdre mon job? Est-ce que j'ai de la sécurité dans la propriété, dans la sécurité sociale, dans la formation professionnelle? Toutes ces questions-là, il y a des réponses. Bien sûr, on ne parle que de ça. Dans l'immobilier, on voit à quel point la crise urbaine, la crise immobilière qui fait qu'on ne pouvons plus se loger en centre-ville parce que les prix sont devenus absolument extravagants. Les ouvriers qui ont d'abord été chassés des usines ont été chassés des villes aussi et donc se retrouvent de plus en plus loin, de plus en plus désocialisés. L'erreur du gouvernement, on l'a vu au déclenchement des gilets jaunes, c'est d'avoir complètement sous-estimé avec les 80 km/h et la taxe sur les carburants à quel point l'existence des personnes fragiles dépendait de l'automobile parce que de facto, ils étaient géographiquement, spatialement dissociés, désocialisés.
Ouais. Et c'est Vous expliquez ça très bien, dans votre livre, il y a tout un passage sur les gilets jaunes, enfin plus spécifiquement sur les gilets jaunes, très intéressant. Et puis en plus, puisque votre co-auteur, c'est Yann Algan, qui avait écrit ce livre sur la société de la défiance avec Pierre Cahuc, un livre qui est resté un peu fondateur de cette économie émotionnelle. La défiance, c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile, à surmonter.
Voilà, et ça exige de nouveux types de politiques économiques.
Et ben voilà,
c'est ça qui est très
exactement.
Important. Exactement. Il faut des politiques. Il y a la défiance envers les institutions. Bon, ça encore une fois, on la trouve à gauche et à droite. Et puis il y a vraiment la défiance presque anthropologique à l'égard de la société. Qui naît, bon, c'est un peu notre analyse, mais on peut proposer d'autres explications, mais qui naît d'une solitude sociale nouvelle. Et ça exige d'autres types de politiques. Repenser la façon dont les villes se construisent. Vous savez, il y a une statistique qui avait circulé l'année dernière qui est très intéressante, qui montrait que le vote pour le Rassemblement National, hier le Front National, est proportionnel à la distance de la gare la plus proche. C'est vraiment très très parlant. On retrouverait les mêmes choses aux États-Unis. C'est vraiment la distance au grand foyer urbain qui explique le vote pour la droite populiste. On trouve de la gauche radicale dans les villes, mais on voit ici que les politiques doivent être d'une autre manière. Elles doivent repenser le rapport, la vie sociale, alors dans les entreprises, peut-être qu'il faut repenser le rôle des syndicats, etc., et sur le territoire.
Vous parlez du dérèglement du capitalisme. Certains disent le capitalisme est mort, vive le capitalisme, il faut le réinventer. Est-ce qu'on peut le réinventer? Est-ce qu'il est mort à vos yeux, Daniel Cohen?
Je pense que le capitalisme, d'abord, a cette extraordinaire capacité à se réinventer plusieurs fois depuis le début.
Mais là, on se pose la question.
Oui, on est dans un nouveau moment, c'est certain. C'est pour ça que les gens en parlent, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se produire. Je disais dans mon précédent livre, les temps ont changé, pardon. On est sorti vraiment depuis plusieurs décennies déjà de la société industrielle. La société industrielle telle qu'elle s'était consolidée dans les années 50 et 60 et qui remonte évidemment plus loin dans l'histoire, peut-être de la deuxième moitié du 19e siècle, dans la forme dont on a finalement hérité, cette société industrielle, elle avait fini par résoudre la question sociale en créant des communautés de destin pour les ouvriers. Au fond, on était dans une société de classe qui savait faire valoir les intérêts de chaque classe les unes par rapport aux autres. Elle s'est totalement délitée. On est dans une société qui cultive l'horizontalité, mais ça veut dire qu'elle n'a plus de force de
traction. Ça veut dire quoi, une société qui culture l'horizontalité?
L'horizontalité, ça veut dire que les savants restent entre eux, les ingénieurs restent entre eux. Il n'y a plus cette verticalité qui pouvait exister, qui faisait que dans les usines Renault, le patron, le cadre, l'ingénieur, le contremaître et l'ouvrier, le service d'entretien, la cantine, tout cela appartenait à une même société. Aujourd'hui, chacun est laissé à lui-même, éclaté dans cette société des individus dont on parlait. Et c'est cette perte d'une société inclusive. La croissance est plus faible, mais elle était forte et inclusive. Maintenant, elle est faible et exclusive. On parle du gagnant prend tout, du winner takes all. C'est ça qui ne va pas. Et donc, il faut réinventer.
Donc, la théorie de cordée, vous n'y croyez pas beaucoup?
Je n'y crois
pas. En même temps, ça fait partie de cette verticalité.
La corde est coupée. Vous voyez, dans les années 50, quelqu'un comme Bill Gates, il aurait été l'ingénieur dans une entreprise qui aurait été sans doute IBM. Ça aurait contribué ses inventions, ses idées, aurait contribué à améliorer la productivité d'IBM, et toute la société en aurait profité. C'est-à-dire, y compris la cantinière qui travaille chez IBM Corporation.
Bon, toute la société.
Il garde tout, il le rend sous d'autre forme philanthropique.
Oui, puis il a quand même créé une entreprise avec des milliers de personnes.
Ça ne percole pas. Vous voyez, on a regardé aux États-Unis, il y a une étude très très
importante. Pourquoi IBM c'est mieux que Microsoft?
Comment?
Pourquoi IBM c'est mieux que Microsoft?
Non, je ne dis pas que c'est mieux, je dis l'IBM des années 50 est mieux que la combinaison Microsoft et IBM d'aujourd'hui. Il y a une statistique très intéressante pour comprendre la montée des inégalités aux États-Unis. Les inégalités aux États-Unis ont explosé, tout le monde le sait maintenant, la part du 1% a doublé, elle est passée de 10 à 20%, alors même que la part des 50% les plus pauvres a été réduite de moitié, passant de 20 à 10%. Donc c'est des choses sans précédent. Aujourd'hui, les 1% gagnent en masse deux fois plus que les 50% les plus pauvres. C'est des choses qui donnent le vertige. Il faut quand même comprendre d'où ça vient tout ça. Mais d'où ça vient? Mais ça vient précisément de cette dissociation. C'est-à-dire que quand on regarde les inégalités, au sein des firmes, les inégalités se sont réduites. Au sein des firmes, il y a moins d'inégalités. Pourquoi? Parce que les gens sont entre eux. C'est des ingénieurs, c'est du service d'entretien à l'autre bout social. Et c'est entre les entreprises que les inégalités ont explosé, parce qu'il n'y a plus de force de rappel comme il pouvait en exister avant. Ça pose un problème de redistribution économique, j'ai envie de dire un peu simple. Bon, d'accord, il faut s'assurer que les revenus ne décollent pas. Mais ça pose surtout cette question qu'on adresse dans ce livre. Comment on fait que les gens qui vivent en sous-traitant retrouvent le lien avec le reste de la société?
Ça, c'est le point clé, hein. Ça, c'est sûr. Que pensez-vous, parce qu'on en a beaucoup parlé là à l'occasion de ce France Digital Day et les annonces d'Emmanuel Macron, de cet écosystème de la French Tech avec ces jeunes qui créent des entreprises sur des petits créneaux qui ensuite grandissent, se vendent, bougent, créent beaucoup d'emplois en l'occurrence, et puis sont en train de transformer cette économie?
Mais écoutez, d'abord, dans le cas de la France, on va essayer de raisonner relativement par exemple ce qui se passe aux États-Unis ou en Israël, qui est une autre grande nation start-up nation. C'est la différence fondamentale, c'est que En France, nous avons un problème que nous n'avons pas réglé avec nos universités. Nous sommes dans un système dans lequel les universités, les grandes écoles forment déjà des silos très compartimentés qui ne sont pas capables de produire l'humus qu'on trouve autour de Stanford, de Berkeley, de Harvard, du MIT, etc. Et ça, je regrette pour le propos, mais ce gouvernement n'y accorde pas l'attention que ça mérite.
Attendez, alors, Daniel Cannel, vous êtes un des personnages clés, on est d'accord, dans l'enseignement de l'économie française, puisque vous êtes à l'école économie de Paris, puis c'est vous qui formez en économie tous les normaliens. Donc vous êtes un personnage clé. Mais c'est un univers qui n'est pas le vôtre. Vous êtes plutôt un intellectuel de l'économie, vous êtes plutôt quelqu'un de gauche, puisque vous avez voté Hollande et puis Est-ce que c'est pas là aussi d'où ça vient? C'est-à-dire une forme de résistance des universitaires et des esprits brillants comme le vôtre. Je vous pose la question sans polémique.
Mais je comprends. Non, bien sûr. Je crois pas. Franchement, je crois pas. Je crois que les universitaires aujourd'hui, d'abord, sont dans la mondialisation, beaucoup plus qu'on ne croit. C'est-à-dire que les chercheurs, tous les chercheurs, vraiment, j'en connais très très peu qui, peut-être dans une niche, seraient protégés de ça, participent, parce que c'est une aventure exaltante, une mondialisation intellectuelle. Nous dialoguons dans nos écoles, mais c'est le cas de tout le monde, de la Sorbonne, de Nanterre.
Mais à Stanford, par exemple, les jeunes étudiants, ils créent des entreprises, ils ont un projet, ils créent déjà des start-up. C'est comme ça qu'ils deviennent ensuite les doctorants.
C'est mon point. Vous savez, le ratio entre les dépenses qui sont consacrées à un étudiant de Stanford
et les conditions de travail, ça n'a rien à voir.
Ça n'a absolument rien à voir. Aux États-Unis, les universités, c'est vraiment la chose que j'admire dans ce pays. C'est peut-être une des seules choses que j'admire vraiment. Mais les universités, mais il y en a plein, il n'y en a pas juste 5 ou 10. On peut descendre très très bas dans les hiérarchies. Elles ont une force de frappe, une puissance incroyable. Elles sont capables de, en effet, susciter des vocations. Elles sont capables d'attirer les meilleurs talents. Elles sont capables, en réalité, de vivre sur un mode qui est vibrant. Vous rentrez dans un amphithéâtre, vous allez avoir des élèves qui n'arrivent pas à s'asseoir sur les bancs des classes. Enfin, on est dans une prolétarisation absolument incroyable. Si on ne change pas, et à côté, on a des grandes écoles qui s'en sortent parce qu'elles sont protégées par leur statut ou par les ressources qu'ils font, mais qui ont une couche très très étroite, qui font peu de recherche souvent. Il y a quelques grandes écoles qui font de la recherche, mais en moyenne peu. Il n'y a pas de laboratoire. Donc on a un monde, celui de, on va dire, des élites, qui fait peu de recherche, très peu exposé à la recherche fondamentale. Et puis la recherche, souvent là où elle se fait, c'est dans des universités qui subissent une prolétarisation. Le rapport Villani sur l'intelligence artificielle, la seule recommandation qu'il faisait, c'était de doubler le salaire d'entrée d'un chargé de recherche au CNRS. Un chargé de recherche au CNRS en biologie, en médecine, en mathématiques, il est à Bac plus 10, il commence à 2000 euros. Ouais. Bon, moi, je veux bien qu'on dise que l'argent
ne suffit pas. Les économistes qu'on connaît qui vont à Harvard et vous multipliez par 10, 20.
Bon, ils gagnent dans des rapports. Ouais. Donc, c'est pas juste l'argent, c'est les conditions d'existence, mais c'est aussi la concurrence internationale, il faut aussi l'admettre. Bon, donc tout ça fait qu'il y a un énorme effort à faire en France pour redynamiser les universités, trouver tous les ponts possibles avec les grandes écoles. Moi, je n'ai pas en tête le grand plan où on a Bolloré les uns. Mais enfin, ça devrait être la priorité absolue, on ne l'a pas.
30 secondes, conclusion, les origines du populisme, la fin du populisme, c'est pour quand?
Écoutez, tant qu'on sera dans cette situation de précarité rampante, tant qu'on aura cette difficulté des classes populaires surtout à retrouver une manière de vivre collectivement, un destin qui les rapproche les uns des autres, comme on a eu encore une fois dans les usines avec du syndicalisme et qu'il faut totalement réinventer aujourd'hui, malheureusement je pense que ça va durer parce que c'est la réponse à une souffrance qui ne se résorbe pas. Et encore une fois là, on ne voit pas qu'on est à la veille de nouvelles 30 glorieuses, on est plutôt au fil de l'eau, constamment passant d'une crise à une autre. Bref, je suis malheureusement assez pessimiste sur ce point-là, sauf s'il y a un grand réveil des politiques économiques dans les directions qu'on vient de dire.
Merci beaucoup, vous avez compris, très intéressant, c'est vraiment à lire. Les origines du populisme, c'est donc au Seuil, avec Yann Algan, Elisabeth Bisley, et puis Martial Foucault, puis bien sûr vous-même, Daniel Cohen. Merci d'être venu nous voir. Voilà, c'est la fin de l'orage, bonne journée, on se retrouve bien sûr demain, et puis ce week-end, et puis lundi, on se retrouve tous les jours. Bonne journée.